Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Une radio que vous écoutez sur le 92.1 en bande FM, en DAB+, et sur radiocampus.be. Nous sommes mercredi, il est 19h et c'est l'heure de retrouver votre Conspiration des planches, votre magazine critique des arts de la scène à Bruxelles. On va faire un petit peu le point sur cette rentrée des scènes après les deux semaines de congé de Toussaint. Une reprise qui a déjà commencé la semaine dernière avec le spectacle au Théâtre des Galeries Glen, Naissance d'un prodige, dont on parlera dans quelques instants. On ira voir aussi ce que nous dit ce Fedo au Théâtre Le Public, un tailleur pour dames. Et enfin, on parlera de reprises et de festivals dans la deuxième partie de cette émission. Mais je commence tout d'abord en me tournant vers le téléphone et en saluant Elisabeth. Bonjour Elisabeth.
Bonjour, bonsoir à tout le monde.
Elisabeth sur le terrain, en route vers le théâtre, et prend le temps quand même de discuter avec nous et de parler notamment, je le disais, de ce spectacle, de cette création au Théâtre des Galeries, Glen, oui. Naissance d'un prodige. Et ben, ce Glen du titre, c'est Glen Gould, Elisabeth.
Bien évidemment. Et le piano est central, il est sur le dispositif scénique, il occupe vraiment le devant de la scène. C'est omniprésent puisque Glen Gould ne fait autre que ce pianiste hors norme. Alors aujourd'hui, on dirait probablement neuro-atypique. Hein, on le dit heureux titulaire de l'oreille absolue. Il était aussi hypochondriaque. Enfin, c'était tout un personnage que nous restitue parfaitement mystique. Il y a aussi des accointances avec la musique, bien sûr.
Qui interprète ce personnage,
et donc c'est un personnage, alors j'ai évidemment oublié les dates, mais enfin on est au 20e siècle, je crois, et je pense qu'il est mort en 90.
C'est le grand 20e, hein. Voilà, il a traversé
donc,
vraiment un petit peu.
De nous, et donc on a des documents iconographiques qui nous permettent évidemment d'être situés, et c'est vrai que Moussi arrive à nous restituer un peu sa silhouette, sa manière particulière de s'asseoir au piano, de se coucher dessus. Alors il était pour l'anecdote, parce qu'il y en a pas mal dans le spectacle, assis sur une chaise que lui avait fabriquée son père. Et là, on est tout de suite dans le du problème, en fait, puisque l'option de l'auteur, donc
Yvan Calberac, auteur français.
Un auteur français, mais aussi quelqu'un qui vient du cinéma entre cinéma et théâtre. Et il a recherché un petit peu un angle, et cet angle, c'est la position particulière du petit Glen, hein, parce que tout commence en fait quand on l'a mis au piano, quand il avait 2 ans et demi. Il se retrouve entre sa mère et son père. Alors sa mère rêvait d'être concertiste, mais enfin elle n'a pas pu. Elle est devenue, entre guillemets, bête forte de piano. Et elle voit dans son rejeton l'occasion de
s'accomplir, finalement, oui, c'est ça.
Ou de s'accomplir, et donc il y a quelque chose de très fort, limite incestueux entre les deux. Et à côté de ça, on a un père qui est interprété avec beaucoup de finesse et de maîtrise par Bruno Jory, un père qui est un peu, qui est dépassé, en fait. Hein. Il se rend bien compte que il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer, que ça va trop loin. Mais il ne sait pas quoi faire, et puis toujours sa femme lui dit, mais enfin, est-ce que tu aurais préféré un monde sans Mozart, sans Gendouille, voilà.
Quand tu dis, alors le spectacle s'intitule Naissance d'un prodige, on est vraiment aux premières années donc, de ce personnage et de sa construction, alors, hein, c'est ça?
Absolument, c'est un spectacle qui, comme d'autres, on avait vu des... aux galeries aussi avec Agatha Christie, reprend les choses depuis le début, pas vraiment la naissance cette fois-ci, mais vraiment la toute prime enfance jusqu'à la mort. Il est mort à 50 ans ou en tout cas très très jeune. Hein. Et alors on a le couple parental et on a encore un contrepoint, en fait, c'est la figure de sa cousine, qui, elle, pas secrètement amoureuse de lui, parce que ça crève tellement les yeux, mais enfin bon, lui, il n'en a pas grand-chose à faire, mais quand même, c'est sa confidente, etc. Donc, on a soit des scènes avec la mère, soit des scènes avec le père, soit des scènes avec la cousine, et gravite autour de ce quatuor-là, encore deux autres personnages, enfin deux autres acteurs plutôt, qui viennent incarner un peu tous les personnages importants dans la vie d'un musicien de 30 qui a fait 15 ans premier concert, mais pas devant 20 personnes, un peu seul et tout ça, des tournées pendant une quinzaine d'années, puis un beau jour il a dit, ouais, non, moi j'en ai marre, je ne sais plus du studio. Et donc, on a deux personnages, deux acteurs qui viennent interpréter tantôt l'impresario, tantôt autre chose importante dans la vie de Glenn Gould, c'est la radio. Voilà.
Donc, alors, Fabrice Gardin met en scène ce spectacle. Quelle est la place qu'il donne de manière sonore, de manière musicale au piano? Est-ce qu'on entend du Glenn Gould ou est-ce que Musti joue?
On a deux petits morceaux, pour répondre à ta question, il y a deux petits morceaux qui donnent l'impression d'être joués en direct. Alors, si c'est vrai ou pas, parfois c'est des questions de branchement de sonos. Et puis tout le reste, c'est plutôt, et c'est là que réside l'intérêt du spectacle, je pense, on est plutôt dans tout ce qui se passe dans la tête de Glenn Gould, et on a des interprétations assez surprenantes, parce qu'au moment où il joue, par exemple, en concert, etc., le Moussi ne se met pas spécialement au piano pour faire semblant de jouer, mais il va nous réinterpréter tout ça, ou alors il y a une musique qui vient interpréter un peu cette espèce de tempo, comme ça, c'est vraiment quelqu'un qui a changé... La manière de jouer au piano, qui s'est attaché à les variations Goldberg et reste encore l'interprète de référence aujourd'hui. Et donc, on a tout ça. Donc, c'est vrai qu'on entend du piano, bien évidemment, mais pas que. C'est peut-être la partie la plus surprenante du spectacle. Moi, je m'attendais effectivement à plus de musique. Il faut souligner quand même que c'est un auteur qui a une plume qui est... hyper précis, avec des dialogues qui sont finement ciblés, des répliques qui sont aussi très très intelligentes, donc il y a un plaisir du dialogue qui est là, et ça nous campe un personnage. Je pense que je ne suis pas la seule en rentrant à avoir écouté les variations de Goldberg, parce que ça, c'est une belle porte d'entrée dans ce spectacle. Alors, c'est vrai qu'autre partie importante, évidemment, c'est la scénographie, parce qu'il y a de multiples lieux. On est à la fois chez les Gould, on est à la fois dans un studio d'enregistrement radio, on est au Canada encore une fois, on est à la fois dans de grandes salles de spectacle, etc. Donc, ce lieu multiple, évidemment, est généré sur scène par des projections. Alors, moi, j'étais placée assez devant, ça m'a un peu peut-être écrasé. Mais je me suis laissé dire que c'était très joli un peu plus long. Voilà.
Glenn, Naissance d'un prodige, un texte d'Ivan Calberac, mis en scène ici par Fabrice Gardin, avec sur scène, on le répète, Musti dans le rôle titre, et accompagné de Margot Frichet, Bruno Joris, Manuela Servet, Robin Van Dijk et Arnaud Van Parijs, dans ce spectacle à voir au Théâtre Royal des Galeries, et c'est à voir jusqu'au 23 novembre. Toutes les infos sur trg.be. Un classique maintenant au théâtre Le Public, Elisabeth, c'est les retrouvailles avec Fedo et son fameux, j'ai envie de dire, fameux tailleur pour dame.
Ben oui, c'est quand même une pièce phare. Alors on peut se demander, quand on va voir un Fedo, à quelle chose on l'a aménagé. Et en fait, là, c'est une chose parfaitement classique. Et finalement, pourquoi pas, c'est chouette de ne pas le tirer dans tout le sens, de nous laisser Fedo pour ce qu'il est. C'est quelqu'un qui, à son époque, a croqué les mœurs, dont les mœurs sont bien évoluées. C'est assez piquant de voir que tout tourne dans cette pièce autour de, d'un homme qui, malencontreusement, n'est pas rentré chez lui la nuit, parce qu'il avait quand même des petites attentions avec sa maîtresse. Et alors on comprend assez vite que ça, c'était juste une première manœuvre d'approche. On voit que, même si la pièce n'est pas... tellement âgé, on voit qu'on a fait du chemin quand même, et on découvre surtout Fedo dans son art. Il y a le port qui claque, il y a le port qui claque, mais il y a aussi l'art du quiproquo. Donc on est parti pour 1h40 sur du quiproquo, On est parti sur des personnages comme ça qui pourraient être totalement tirés en ridicule. Et c'est vrai que le personnage principal est interprété par Alain Lempoul qui arrive, je trouve, à bien garder le fil et à garder ce personnage pour ce qu'il est, en fait. Et avec une certaine tendresse, on n'est pas dans la caricature, on n'est pas dans...
On est dans la dépiction d'une vie bourgeoise. Bon, on est là sous le Second Empire et ça commence. C'est les frivolités aussi de cette bourgeoisie qui s'émancipe à cette époque, mais qui ne voit pas évidemment. En fait, dans l'histoire, on voit que ces pièces se déroulent dans un régime dictatorial, on peut le dire, mais oui, avec une certaine bourgeoisie qui s'aveugle dans la joie et dans ses chassés croisés, amoureux, matrimoniaux. Et Feydeau, c'est le rythme, hein, c'est aussi ça, outre la caricature, c'est vraiment...
C'est ça. Et ce qui, dans la version que nous apporte le public, c'est aussi une équipe. Alors c'est vrai que quand on lit les noms, j'ai dit, oh là là, on est reporté en arrière, parce que c'est des gens qui sont là pour nos fans depuis des décennies. Mais en fait, en même temps, c'est aussi... des acteurs de même génération qui se tiennent les coudes et qui connaissent leur métier, en fait, et qui donnent beaucoup de cohésion, finalement, à l'ensemble, et fait que ce spectacle, c'est vrai qu'il n'a pas grand-chose à nous apprendre aujourd'hui, c'est vrai que tu as évoqué toute une situation politico-sociale qui n'est pas présente là, on est dans une ambiance un peu art déco, on sent que les costumes tirent un peu ça, des années 20, comme ça, mais quand même des femmes en pantalon, donc est-ce que ça va évoluer ou pas? Mais on est tout au plaisir finalement, et au bout de 3 minutes, on s'est laissé prendre par ce duo.
Et quelle belle distribution quand même, hein, Laurence D'Amelio, Eric De Ster, Frédéric Ognès, les cite tous, et après on continue, Patricia Hyde, Cachou Kirsch, Sandrine Lahore-Roche, Alain Lempoul, donc tu le disais, Pierre Pousset et Marie-Hélène Remarque. C'est vrai que c'est des artistes que l'on retrouve souvent sur nos scènes, mais c'est une belle équipe pour ce spectacle qui finalement va nous amener aux fêtes, hein. C'est un peu ça aussi.
Oui, voilà, et puis c'est vraiment, c'est vrai qu'on peut se dire, on est là, c'est triste, on a besoin un peu de blues, et besoin qu'on soit un peu moral, voilà, c'est vraiment une option qu'on peut porter, je veux dire, les yeux fermés, parce que Feydeau va nous emmener et Feydeau est bien servi.
Allez rire avec Feydeau et toute cette belle bande d'acteurs au Théâtre Le Public jusqu'au 31 décembre. Donc, comme je disais, un spectacle de fête. Et c'est Michel Kassenhollenbogen, le maître des lieux, qui met en scène cette version de Tailleur pour dames. Tous les renseignements sur théâtrelepublic.be. Merci Elisabeth pour cette contribution. Et ce que tu vas voir ce soir, tu nous en parles la semaine prochaine.
Par exemple, en tout cas, bonne semaine et bonne planche à tous.
Bonsoir à toi et on se retrouve, nous, ici, en tout cas, après une petite pause musicale.
La semaine prochaine.
Sauver ta vie, tu te souviens, tu oublies. Dans ton cou, une goutte de pluie et le silence d'une amie mêlé de mélancolie.
Sache que tu n'es que ce que tu chasses, quoi que tu fasses, quoi que tu caches, tu n'es que ce que tu suis, quoi que tu fuis. Tu n'es que ce que tu vises, quoi que tu dises,
quoi que tu dises.
Tous ces regards qui t'oppressent, la fatigue et la SMS, ces moqueries que l'on t'adresse, la réveil était des caresses. Soudain te lasse et te blesse.
Sache que tu n'es que ce que tu chasses. Quoi que tu fasses, quoi que tu caches, tu n'es que ce que tu suis. Quoi que tu fuis, tu n'es que ce que tu vis. Quoi que tu dises. L'effort et la douleur, entre la proie et l'ombre, l'essai ou l'erreur, la musique ou le bruit, le réel ou la story, entre la cire et la bougie, le zéro ou l'infini.
La proie et l'ombre, c'est le titre de ce morceau du groupe Catastrophe que l'on écoute à l'instant, et le titre aussi de leur nouvel album à découvrir sur le label Tricatel, label de Bertrand Burgala. Et sachez que le groupe Catastrophe sera en concert, en tout cas en soirée de présentation de ce nouvel album à la Maison Poème le jeudi 20 novembre prochain, à Saint-Gilles donc, et que je dis soirée de découverte parce que ce sera une soirée en plusieurs temps, avec d'abord un film qui est inspiré, qui est tiré de cet album. Il y aura ensuite une rencontre avec le groupe et un live intime d'une trentaine de minutes après cette rencontre. Voilà pour le programme de cette soirée consacrée à La Proie et l'Ombre, nouvel opus du groupe Catastrophe à découvrir ce jeudi 20 novembre, donc à la Maison Poème à Saint-Gilles. On est de retour dans La Conspiration des Planches, et pour la deuxième partie de cette émission, on va parler bien de reprises et de festivals. C'est ce que j'annonçais en sommaire et je ne vous ai pas menti, puisque nous allons d'abord aller du côté du Théâtre Varia pour reparler et refaire le point sur le spectacle Rire pour en finir avec soi-même de Sarah Selma Dolores, et qui est à découvrir jusqu'au 7 novembre, jusqu'à ce vendredi. Alors Rire pour en finir avec soi-même, c'est un spectacle, vous l'aurez deviné, sur le rire. Et Sarah Selma Dolores, elle en a fait bien son métier, puisque artiste de cabaret et de théâtre de rue, elle a pendant sa carrière de presque deux décennies déjà travaillé à faire rire les gens. Faire rire de quoi? Faire rire un petit peu de tout, et surtout faire rire de nous-mêmes, de nos grotesqueries, on a envie de dire, de nos grossièretés aussi, puisque c'est une artiste qui a défendu un humour assez troupier, on peut dire, et qui finalement s'est posé par cette bouffonnerie, s'est exposé à des critiques, et des critiques venant un petit peu de tous les camps. Et elle s'est demandé à un moment donné, de quoi peut-on rire aujourd'hui, et comment peut-on rire avec le plus grand nombre de personnes personne, en fait, aujourd'hui. Parce que c'est ça un peu le but du spectacle, c'est de partager une émotion et aussi de nous questionner sur ce rapport au rire, ce rapport à l'humour et à ce qui peut encore être partagé par l'humour dans un spectacle ici qui va mêler théâtre et cabaret, où elle va apparaître en performeuse de grand cabaret style Lido de Paris, mais qui va elle-même un petit peu s'effondrer dans ce personnage qui va être coincé dans sa robe et impossible de descendre ses grandes marches coincé dans ce costume. Et elle va commencer ainsi à nous adresser un discours, une réflexion sur, avec humour, hein, c'est un spectacle où on rit beaucoup sur de quoi peut-on rire aujourd'hui. Alors c'est un spectacle qui vaut surtout pour cette réflexion, qui vaut pour cet échange de vues un petit peu, et ce qu'elle nous met sur le plateau avec son style, Sarah Selma Dolores. Elle écrit ce spectacle, elle a d'ailleurs remporté le prix de la meilleure autrice au dernier prix Maeterlinck de la critique, et elle qui a traversé et qui a exploré et qui s'est emparée aussi des causes de notre époque, aussi bien le féminisme, l'ouverture à toutes les communautés, l'inclusion, avoir subi à la fois ce qu'elle appelle la morale de gauche et la morale de droite, et le on ne peut plus rire de rien, et bien c'est un petit peu ça qu'elle va un petit peu décortiquer et voir qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui. Et être clown, ça veut dire quoi aujourd'hui? C'est un petit peu ce qui va la traverser dans un spectacle où elle n'est pas seule, où elle invite justement des artistes de cabaret qui changent au fur et à mesure des lieux et des soirées qui sont proposées. Mais c'est un spectacle à la fois très intelligent, très pertinent, qui... je vais pas dire qu'il choque, mais en tout cas qu'il bouscule dans notre réflexion et qui nous amène à nous poser nos propres questions. Et qu'est-ce que ça veut dire faire le fou, faire le pitre aujourd'hui? Ça s'appelle donc Rire pour en finir avec soi-même. Et c'est à découvrir donc au Théâtre Varia, un spectacle qui va encore tourner aussi par la suite en Wallonie. Ce sera à Namur. Ça ira aussi dans d'autres lieux que j'ai pas la liste, malheureusement. Sous les yeux ici, et c'est un spectacle qu'on avait pu voir en création à la Balsamine la saison dernière. C'est donc jusqu'à ce 7 novembre et www.varia.be pour toutes les informations. Et le Théâtre National, lui, nous propose son rendez-vous annuel maintenant, intitulé Scènes Nouvelles, et qui nous propose de découvrir ou de redécouvrir des créations de la jeune scène francophone et belge, et de voir un petit peu comment elle se porte et qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Alors, c'est un festival qui a aussi commencé ce mardi et qui se poursuit encore cette semaine, et on pourra notamment découvrir, alors si vous courez vite, vous pouvez c'était à 19h, donc malheureusement si vous nous écoutez en direct, malheureusement c'est pas possible de redécouvrir Exhibit A de Siam Adioui et de Elias Metioui, mais c'est pas grave, mais c'est un très bon spectacle, donc restez attentifs si vous pouvez le découvrir. On va plutôt parler de ce qu'on peut encore découvrir, c'est-à-dire le spectacle Arsène et Fanfan de Simon Thomas. Simon Thomas, comédien, on l'a vu récemment au Rideau dans une jeune création, et ici c'est avec son propre spectacle, avec un collectif d'artistes, que ce soit en scéno, parce qu'il a un grand attachement à tout ce qui est l'ambiance visuel, l'ambiance scénique, sonore également. Et ici, il met en scène un spectacle qui va par tableau, flirtant avec l'absurde, où les règles ne sont pas, les règles spatio-temporelles ne sont définies que par ce qui se passe sur le plateau. On découvre un plateau orange, futuriste et vintage à la fois, où il y a un grand trou, où on est projeté dans une multiple réalité, et où on va se retrouver avec deux personnages, d'abord en premier lieu, des où la communication, où les règles de la communication entre ces personnages sont définies. Alors d'abord, on assiste à une conversation banale entre deux amis, mais ce qu'on remarque au fur et à mesure, c'est que ces deux amis restent à distance. Pourquoi ? Parce qu'ils sont branchés dans le mur et on va voir très vite que s'ils se débranchent, ben, c'est fini, ils ne bougent plus, ils sont comme morts et affalés sur le plateau. Puis on va être transporté un petit peu dans le futur, dans une autre situation où deux personnages vont, on est presque dans du Enki Bilal, des espèces de sages du futur, vont s'interroger sur le rapport au temps, le rapport à l'immortalité, le rapport à notre humanité. Bref, quelque chose qui va nous emmener assez haut et assez loin, mais en même temps, avec toujours ce décalage, une sorte de faux réalisme et de fausse pertinence du propos, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce n'est pas tant ce qu'ils disent, mais comment ils se le disent et ce que ça nous amène comme jeu de langue, comme jeu de situation, dans un spectacle qui va finalement nous faire rire beaucoup, qui va nous emmener parfois très loin dans des réflexions un petit peu capillotractées, mais qui est vraiment plaisant à regarder, notamment par son jeu d'acteur. Et on peut découvrir et redécouvrir sur le plateau Héloïse Jadot et Jules Churin, et il y aura aussi pas mal de surprises. Hein. Je n'ai pas envie d'en dire trop parce que c'est un spectacle qui se déguste aussi sur le moment et sur ce qu'il révèle et sur ce que son plateau révèle. Voilà, c'est à voir ces 6 et 7 novembre dans le cadre du festival Scènes Nouvelles au Théâtre National, un festival où on pourra aussi découvrir la dernière création de Mathias Simon et des Ateliers de la Colline, avec un spectacle plutôt jeune public, mais franchement qui mérite à mon avis le détour à tous les âges. Ça s'appelle Les Enfants de la Vallée et qui va revenir, en tout cas qui est inspiré des témoignages et des ateliers menés en milieu scolaire dans les vallées de la Vesdre et de l'Ourthe qui ont connu de grandes inondations, vous vous rappelez sans doute, en été 2021, et voir un petit peu qu'est-ce que cette histoire de la catastrophe a pesé, comment elle a pesé sur les récits de ces gens, de ces enfants, de ces jeunes, bref, tout ce qui a été perdu, tous les souvenirs qui restent malgré tout et toutes ces vies bouleversées. C'est un spectacle à découvrir aussi ces 6 et 7 novembre dans le cadre du festival Scènes Nouvelles au Théâtre National, un festival donc qui revient chaque année maintenant, et on pourra aussi découvrir les nouvelles créations de Quentin Chavarrière du collectif Ravi, de Stéphane Caval et d'Abed Kobeissi également en danse. Bref, pas mal de choses pour les curieux à aller découvrir de ce côté-là. Voilà un petit peu pour la conspiration de cette semaine, en espérant qu'elle vous aura donné envie d'aller découvrir ce qui se passe sur nos planches. Elles sont riches, elles sont belles, elles sont inspirantes, elles nous font rire, elles nous font pleurer. Bref, beaucoup d'émotions et aussi de réflexions sur nos scènes. Nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle conspiration des planches. D'ici là, bonne planche à tous et bonne soirée sur Radio Campus. Conspiración.